VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 8 juin 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Alberson.
Nous commençons par les titres.
Surprise hier au Burundi où le président Pierre Nkurunziza a décidé de ne pas se représenter en 2020. Un dossier sera consacré à ce développement.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, voudrait faire jouer un rôle accru à la MINUSMA au Mali.
La Cour pénale internationale rend son arrêt en appel aujourd'hui à l'encontre de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba.
Sommet du G7 aujourd'hui et demain au Québec, au Canada.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, a promis hier de ne pas se représenter à la fin de son mandat en 2020. La constitution burundaise a été modifiée le mois dernier par référendum, permettant en théorie à l'actuel chef de l'État de briguer de nouveaux mandats consécutifs de 7 ans à partir de 2020 et par conséquent de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Mais lors d'une cérémonie, Pierre Nkurunziza a cependant assuré qu'il ne comptait pas se représenter. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
La Cour pénale internationale rend son arrêt en appel aujourd'hui à l'encontre de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. Reconnu responsable d'une vague de meurtres et de viols commis par sa milice en Centrafrique. Cette milice se trouvait dans ce pays pour soutenir le président Ange-Félix Patassé face à une tentative de coup d'État menée par le général François Bozizé. L'ancien riche homme d'affaires, devenu chef de guerre, a été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison pour les crimes de guerre commis par sa milice, le mouvement de libération du Congo, entre octobre 2002 et mars 2003. D'après les juges, l'accusé a dirigé une ample attaque contre la population civile durant laquelle des familles entières ont été prises pour cible. Avec Thierry Kambundi, oui, il faut le dire, de Top Congo FM, nous reviendrons en seconde partie de cette édition sur les réactions à Kinshasa.
Au Mali, la MINUSMA, la mission des Nations Unies, devrait avoir un rôle politique accru, plaide le secrétaire général de l'ONU. Dans un rapport, Antonio Guterres recommande au Conseil de sécurité de redéfinir les priorités de la mission onusienne au Mali. Des détails avec Eddy Issango.
Les rapports sont publiés dans la perspective du renouvellement fin juin du mandat de la MINUSMA. M. Guterres dit dans les textes avoir l'intention d'explorer les possibilités d'augmenter les rôles politiques de la MINUSMA en soutien du processus de paix. Il se base sur une étude stratégique indépendante réalisée en début d'année à la demande de l'ONU. L'étude se prononce pour l'élaboration d'un pacte pour la paix. M. Guterres soutient que l'accord de paix malien signé en 2015 reste la pierre angulaire du processus de paix. L'édit accord n'a pas, regrette-t-il, donné lieu à suffisamment de progrès significatifs sur le terrain 3 ans après sa signature. Par ailleurs, la situation humanitaire continue à empirer en raison de l'insécurité croissante dans le nord et les centres tombés en mars-avril 2012 sous la coupe des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. M. Guterres exprime sa préoccupation face à la crise alimentaire dans le pays. Les djihadistes y ont été en grande partie chassés par une intervention militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France, mais des zones entières échappent toujours au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU.
Le président Cyril Ramaphosa veut rassurer la communauté blanche africanaire d'Afrique du Sud. Celle-ci ne doit pas voir ou percevoir le projet de réforme agraire comme une menace, mais plutôt comme un moyen de mobiliser le potentiel économique du pays et guérir les divisions du passé, a déclaré le président sud-africain hier. Les précisions de Lionel Gahima.
Cyril Ramaphosa, qui a succédé en février à Jacob Zuma, a promis de redistribuer les terres à la majorité noire en réponse aux profondes inégalités raciales qui persistent dans le pays plus de 2 décennies après la fin de l'apartheid. Toutefois, il a du mal à calmer les appréhensions des blancs sud-africains qui redoutent une violente occupation de leurs terres si l'opération était mal menée. Il ne faut pas voir la question de terre comme une raison de faire ses bagages et partir, a plaidé le président Ramaphosa hier lors d'une réunion de l'Africaner Bond Ronde, une organisation fondée il y a un siècle pour défendre les intérêts des descendants de colons hollandais. C'est une occasion de bâtir une société plus juste et plus équitable, qui utilise pleinement et efficacement ses ressources, a expliqué le chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui a joué un rôle clé dans les négociations et a mis fin au régime de la minorité blanche en Afrique du Sud, a appelé les Afrikaners à aborder la réforme agraire dans le même esprit que celui de la transition vers la démocratie.
Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame un libre passage de l'aide humanitaire en Somalie, où existe un risque perpétuel de famine, dans une déclaration adoptée jeudi à l'unanimité. Les 15 membres du Conseil de sécurité dénoncent la menace constante que représentent les Chebabs et réaffirment appuyer une approche globale de la sécurité en Somalie, conforme au droit international.
D'autre part, le Conseil de sécurité a sanctionné hier 6 chefs de réseaux de trafiquants de migrants actif en Libye, une première pour l'ONU, à la valeur principalement dissuasive. Les sanctions, gel de comptes bancaires, interdiction de voyager, visent 2 Érythréens, Hermias Germaï et Fitiwi Abdelrazak, ainsi que 4 Libyens, Ahmad Oumar Al-Dabashi, Moussab Abou Karine, Mohamed Kachlaf et Abdelrahman Al-Milad, le chef d'une unité de garde-côte. Cette décision a été retardée 1 mois par la Russie, qui avait réclamé des précisions sur les personnes concernées et le bien fondé d'un tel processus.
Les États-Unis ne cherchent pas un changement de régime à Djouba, a assuré le nouvel ambassadeur américain au Soudan du Sud. Thomas Hushek apporte ainsi un démenti catégorique aux accusations répétées des dirigeants sud-soudanais contre Washington. Des détails avec Timothée Donangmai.
Les États-Unis veulent que la paix revienne au Soudan du Sud après 4 ans et demi de conflits armés, a déclaré l'ambassadeur Hochek dans un entretien exclusif accordé à South Sudan Focus, une émission de la Voix de l'Amérique consacrée au Soudan du Sud. Nous aimerions voir un changement de comportement chez les leaders sud-soudanais, tant au sein du gouvernement qu'en dehors, afin de s'orienter vers cette paix et la réaliser, a souligné le diplomate américain. Selon Thomas Hochek, Washington entend recourir à des sanctions ciblées combinées à des approches plus positives comme le dialogue avec le peuple et les dirigeants sud-soudanais pour atteindre cet objectif. Suite aux efforts américains, le Conseil de sécurité de l'ONU a récemment renouvelé pour 45 jours ses sanctions contre le Soudan du Sud. Le Conseil a toutefois différé pour 30 jours une mesure d'interdiction de voyage et de gel d'avoir visant 6 leaders sud-soudanais accusés d'entrave aux efforts de paix. Si Washington n'obtient pas l'appui de l'ONU, de l'Union africaine ou de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, sur ce dossier, il appliquera ses sanctions de manière unilatérale, a averti l'ambassadeur Hochek.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump promet d'inviter son homologue nord-coréen Kim Jong-un à la Maison-Blanche si le sommet de la semaine prochaine entre les deux hommes est satisfaisant. Mais si les choses ne se passent pas bien, M. Trump compte mettre fin au processus de négociation sur le nucléaire, Bagasikura.
Lors d'une conférence de presse avec le premier ministre japonais Shinzo Abe jeudi à la Maison Blanche, Trump a répété ses propos de la semaine dernière, à savoir qu'il était possible que lui et Kim signent un accord mettant un terme à la guerre de Corée qui a eu lieu de 1950 à 1953, une guerre qui s'était terminée par une entente des parties et non grâce à un traité. Trump a aussi ajouté qu'il espère que les relations entre son pays et le régime nord-coréen pourraient un jour se normaliser. Lors du sommet de Singapour le 12 juin, les États-Unis comptent demander à Pyongyang d'abandonner son programme nucléaire. Mais pour la Corée du Nord, il n'est pas question d'abandonner de façon unilatérale son arsenal. Le président américain a assuré qu'il se retirera du processus de dialogue si rien n'avance comme il le faut et qu'il va réactiver les sanctions contre la Corée du Nord.
Avant son sommet très attendu avec Kim Jong-un, le président Trump fait un détour ce vendredi et samedi par le Canada pour une confrontation tendue avec ses alliés du G7, indignés par les nouveaux tarifs douaniers américains. L'atmosphère s'est envenimée avant même le début du sommet. Aux critiques de moins en moins voilées de l'hôte du sommet, le premier ministre canadien Justin Trudeau et du président français Emmanuel Macron, au Canada depuis mercredi, Donald Trump a répliqué avec des tweets lapidaires jeudi soir. Nous reviendrons en seconde partie de cette édition sur ce sommet du G7.
Au moins 22 combattants pro-régime, dont 11 soldats de l'armée syrienne, parmi lesquels 2 officiers, ont été tués hier dans des attaques menées par les djihadistes du groupe État islamique dans le désert de la province méridionale de Souaïda. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces attaques sont les premières lancées depuis le désert de Souaïda, où aucune présence du groupe djihadiste n'était soupçonnée depuis 2016.
L'état d'urgence instauré en Turquie après le putsch manqué du 15 juillet 2016 pourrait être levé après les élections présidentielles et législatives du 24 juin, a déclaré hier le président Recep Tayyip Erdogan. Jusqu'à présent, M. Erdogan assurait que ce système d'exception ne serait levé qu'une fois la menace terroriste entièrement éliminée en Turquie. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manira Kiza.
La BAD a décaissé des prêts de plus de 3 milliards d'unités de compte, un indicatif monétaire qu'elle utilise au sein de ses différents États membres. Cette dynamique entre dans le cadre de sa stratégie à l'horizon 2022. La BAD vise à apporter le maximum de capitaux aux économies d'Afrique, mais il faudra attendre les performances des 12 prochains mois pour évaluer le niveau d'efficience atteint par la BAD. Les compagnies aériennes du Nigeria menacent de ne plus payer la TVA à partir du 14 juin 2018. Cette taxe sur la valeur ajoutée est estimée à plus de 15 milliards de naira par an. Couplée aux coûts élevés du carburant d'aviation, elle constitue un fardeau écrasant pour la santé financière des compagnies locales. Ces compagnies la qualifient d'abusif et déplorent l'exemption accordée aux transporteurs étrangers qui opèrent dans le pays et d'autres modes de transport. Les transporteurs routiers, ferroviaires, maritimes et internationaux ne sont pas soumis à cette taxe. En Égypte, le déficit commercial a atteint plus de 3 milliards de dollars à fin mars 2018. Il est en hausse de plus de 6% en glissement annuel. Cependant, il en ressort que les exportations ont progressé de plus de 3%, les importations ont augmenté de près de 5%, surtout le fer ou l'acier, le pétrole brut, le blé et les produits pharmaceutiques.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Fédération ghanéenne de football va être dissoute.
Le gouvernement a décidé de prendre des mesures immédiates pour la dissolution de la Fédération ghanéenne de football en raison de la nature massive de la corruption présumée, a déclaré le ministre de l'Information, Moustapha Abdoul Hamid. Dans un documentaire explosif, des journalistes d'investigation affirment, image à l'appui, que Kwesi Nyantaki, président de la Fédération ghanéenne de football, est impliqué dans plusieurs délits de corruption présumés, mettant en jeu des millions de dollars de pots de vin. On y voit notamment M. Nyantaki proposer à de supposés investisseurs financiers, en fait des journalistes, de lui verser 11 millions de dollars pour leur faciliter l'accès à des personnalités du gouvernement en échange d'importants contrats. L'accord en discussion devant une caméra porte sur 5 millions de dollars par an pendant 5 ans et prévoit des rétrocommissions de 20 à 25% payées par la fédération à M. Nyantaki et ses partenaires via la société Namax.
Mondial 2018, la Tunisie est la première nation africaine à débarquer en Russie.
Partis hier de Tunis, les Aigles de Carthage sont arrivés hier à Moscou, où ils participeront à la Coupe du Monde 2018. Les hommes de Nabil Maloul ont réalisé jusque-là 2 matchs contre la Turquie et le Portugal pour le même score de 2 buts partout. Demain samedi, ils disputent leur dernier match contre l'Espagne. Au Mondial, la Tunisie évoluera dans le groupe G avec l'Angleterre, la Belgique et le Panama. C'est le deuxième pays à fouler le sol russe après l'Iran.
Marché de transfert. Toko Ekambi a signé à Villarreal.
L'attaquant international camerounais, meilleur joueur africain du championnat de France avec Angers en 2017-2018, a signé un contrat de 5 ans avec Villarreal. Toko Ekambi sera présenté au public ce vendredi. Selon la presse française et espagnole, le montant du transfert est estimé à 20 millions d'euros. Arrivé à l'été 2016 à Angers, le joueur âgé de 25 ans a inscrit 17 buts la saison dernière. Il compte également 17 sélections avec les Lions Indomptables du Cameroun pour 2 buts.
Départ du directeur exécutif de la Première Ligue fin 2018.
Le patron de la puissante Ligue anglaise de football, Richard Scadon, qui dirige l'organisation depuis près de 20 ans, va quitter son poste d'ici la fin de l'année, d'après la Première Ligue. Ce fut un privilège absolu de diriger la Ligue anglaise de football, a affirmé l'homme de 58 ans nommé en 1999, dont le salaire annuel dépasserait le million d'euros.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur la surprise créée hier au Burundi par la décision du président Pierre Nkurunziza de ne pas se représenter en 2020, malgré la nouvelle constitution qui vient d'être adoptée et qui lui permet de briguer deux autres mandats de 7 ans à cette date. Idriss Fall a contacté différents acteurs burundais, des représentants de l'opposition et le porte-parole du président Nkurunziza pour des réactions. D'abord, joint à Kigali au Rwanda, François Nyamoya du MSD, opposant en exil dans ce pays.
Oh, avec beaucoup de prudence, parce que le personnage, il est habitué à changer de casquette et de ne pas tenir parole. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'il a mis beaucoup d'énergie, malgré toutes les pressions de part et d'autre, pour modifier la constitution. Et quand vous lisez la constitution très en détail, ce n'est pas une constitution qui est faite pour un État, c'est une constitution taillée pour un individu, pour une personne. C'est une constitution faite pour Nkurunziza. Alors, la question est celle-là. Comment se fait-il que quelqu'un qui a mis autant d'énergie pour modifier une constitution taillée à sa mesure, subitement, il dit « je ne me représenterai plus ». C'est surprenant. Voilà la réaction à chaud. Mais sinon, les problèmes réels du pays, indépendamment de Nkurunziza, les problèmes qu'il a créés, c'est vrai, c'est un problème de système, donc de restauration de l'accord d'Arusha, de la constitution, dans toutes ses dimensions, y compris la dimension de l'organisation d'élections crédibles.
Le même scepticisme a été enregistré auprès de Maître Emmanuel Kengurutse de l'UPRONA, autre parti d'opposition, joint également à Kigali.
Il est très difficile de croire à la parole de Pierre Nkurunziza parce qu'il change chaque fois au gré des circonstances. Et pourquoi il aurait changé cette constitution? Est-ce que cette constitution n'a pas été faite sur mesure pour qu'il puisse se représenter à nouveau? Il va toujours prétendre que c'est le peuple qui le lui demandera cela, comme en 2013, n'est-ce pas?
Donc l'opposition en exil n'est pas du tout prête à rentrer au pays alors?
Non, mais avec Nkurunziza, si vous rentrez là, vous êtes mort. Hein? Il y a des réfugiés qui tentent de rentrer, il y en a de Tanzanie, du Rwanda, du Congo, mais on a beaucoup d'exemples, on a beaucoup de cas qui sont avérés corrects, qui ont été tués.
Charles Nitidier de CNARED, en exil à Bruxelles, s'attend lui aussi à des élections anticipées qui permettront à M. Nkurunziza de se représenter avant 2020.
Je n'y crois pas parce que M. Nkurunziza, avant 2015, il avait dit qu'il n'allait pas briguer un troisième mandat et que la Constitution, l'accord d'Arusha lui interdisait. Mais après, il a dit qu'il ne va pas aller contre la volonté du peuple. Pour moi, je crois que c'est plutôt un repli tactique et stratégique. Il a des pressions, certes, provenant de la communauté internationale, provenant même de l'intérieur de son camp. Il y en a qui sont contre, qui ne veulent pas qu'il soit sacré roi à vie. Et face à toutes ces pressions, je crois qu'il a choisi pour se donner le temps de réfléchir. Je crois que maintenant, la guerre va s'engager au sein du CNDD-FDD pour la succession. Et il va se rentrer dedans. Et entre-temps, M. Nkurunziza va se refaire du poil de la bête, comme on dit. Et il va dire, bon voilà, sans moi, rien ne va, les gens sont entrés dedans, je suis l'homme de la situation, et il va se représenter à coup sûr. Deuxième chose, je ne pense pas que M. Nkurunziza pourra aller jusqu'en 2020. Je crois qu'il va plutôt organiser des élections anticipées, parce que les deux constitutions ne peuvent pas se cohabiter pendant presque près de 2 ans.
Enfin, pour replacer l'annonce de Pierre Nkurunziza dans son contexte, Idriss Fall a demandé au porte-parole présidentiel Jean-Claude Kereroy pourquoi le président burundais ne va pas se représenter en 2020 alors que la nouvelle constitution lui permet de briguer alors 2 autres mandats de 7 ans. Pour M. Kereroy, la constitution le lui permet mais ne l'oblige pas à le faire. M. Nkurunziza peut servir son pays d'une autre façon.
pour servir son pays, on ne doit pas nécessairement être président de la République.
Donc c'est ça qui explique la récente nomination par le CNDD-FDD pour faire de lui un gude suprême éternel.
Non, je ne peux pas commenter les nominations ou les distinctions honorifiques octroyées par le parti CNDD-FDD, mais ce qui est évident, c'est qu'on reconnaît à lui un leader, un homme d'État, on reconnaît à lui un aîné du Burundi qui a une grandeur physique et morale, qui est en mesure de diriger, d'organiser des gens et de donner des conseils.
Est-ce qu'on peut dire que cette journée est une journée historique pour le Burundi?
Ah oui, c'est un jour où le peuple burundais avait rendez-vous avec l'histoire. C'est une journée historique et même émotionnelle pour certaines personnes.
C'est-à-dire
Non, vous savez, si vous lisez ce que la presse écrivait ces derniers temps, comme quoi la nouvelle constitution vient pour prolonger le mandat du président jusqu'en 2034, et les gens s'attendaient à ce qu'il soit candidat en 2020. Il y en a même qui l'ont voulu, il y a beaucoup de Burundais qui aimeraient que le président reste président. Vous comprenez ce que je veux dire par émotion.
Merci à Jean-Claude Karaiwa, porte-parole du président Nkurunziza, François Nyamoya du MSD, à Maître Emmanuel Kengurutse de l'UPRONA, à Charles Titidier du SNARED et bien sûr à Idriss Fall pour ce mini-dossier sur le Burundi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
C'est ce vendredi que la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale se prononce en audience publique dans l'affaire contre Jean-Pierre Bemba, Gombo, au siège de la Cour à La Haye, aux Pays-Bas. Cette audience portera sur le prononcé des jugements de cette Chambre concernant les appels à l'encontre du verdict prononcé en première instance. En clair, l'ancien vice-président de la RDC, qui a déjà passé plus de 10 ans à la CPI pour des crimes commis par ses troupes en Centrafrique entre 2002 et 2003, sera fixé sur son sort. À Kinshasa, la population et la classe politique sont en attente de cette décision. C'est ce que nous dit Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, dans ce reportage.
Condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba sera fixé ce vendredi 8 juin à partir de 16h heure de Kinshasa par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Maître Aimé Kilolo, l'ancien coordonnateur de l'équipe de défense du leader du mouvement de libération du Congo, présente 3 scénarios probables.
Première possibilité, décision d'acquittement pure et simple. Deuxième possibilité, un acquittement partiel. Dans cette hypothèse, ça veut dire que la durée de la peine pourrait être sensiblement diminuée. Et si cela correspond à une peine qui ne dépasse pas 10 ans d'emprisonnement, ceci pourrait entraîner évidemment sa remise en liberté, le cas échéant, sous condition de rester peut-être en Belgique. L'autre possibilité qui existe, c'est évidemment la possibilité de confirmer la décision qui avait déjà été prise en première instance. Et dans ces conditions-là, il ne pourrait être libéré qu'à concurrence de 2/3, c'est-à-dire d'ici environ 2 ans ou 3.
À Kinshasa, la plupart des personnes interrogées par VOA Afrique espèrent la libération de Jean-Pierre Bemba. Pour elles, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo a passé suffisamment de temps à la CPI. Il est donc l'heure qu'il reviennent au pays pour participer aux élections.
J'ai suivi ces procès avec beaucoup d'attention et je pense que jusque-là, comme certains avocats de la CPI sont en train de le dire, le jugement sera rendu avec impartialité et que si Jean-Pierre Bemba a bel et bien commis des actes qui lui sont reprochés, eh bien il pourra subir la rigueur de la loi et si réellement son dossier n'était pas si consistant que ça, je pense que la CPI, c'est la Cour pénale internationale, c'est pas pour rien. Je pense que ça sera plutôt l'acquittement. C'est ce que, naturellement, je souhaite.
Les attentes sont beaucoup plus de son acquittement. Regardez aujourd'hui avec les contours politiques, avec le contexte actuel, tous les Congolais, pour ne pas dire la population congolaise dans son ensemble, un regard un peu plus optimiste. Si vous regardez le dernier ballet diplomatique qui a eu à la haie avec le correspondance notamment de Herman Cohen et les autres, tout laisse voir que son acquittement est bien possible, parce que non seulement cela devait se rendre dans les verdicts, mais aussi parce que c'est un souhait pour tous les Congolais.
Par rapport au prononcé du jugement à la CPI, ce que nous attendons, c'est la libération, parce que d'abord il a déjà passé beaucoup d'années là-bas, et puis nous savons que nous on va réduire la peine. Nous avons l'impression que nous sommes, nous les Congolais, victimes de la CPI. Il n'y a que nous à la CPI, c'est pourquoi nous pensons que le verdict qui sera rendu, ce sera une bonne chose pour que Jean-Pierre Bemba soit enfin libre. Pourquoi je dis qu'il sera libre? Parce que je suis convaincue, tout simplement parce que Jean-Pierre Bemba a déjà passé beaucoup d'années en prison, et je sais qu'on va réduire la peine.
Nous sommes en attente de ces verdicts. Ce que nous souhaitons, c'est que Jean-Pierre Bemba soit acquitté de ce jugement, pour qu'il puisse regagner son pays, pour qu'il puisse reprendre avec ses activités politiques ici au sein de son pays et au sein de son parti.
Ce point de vue est également celui de son parti, le Mouvement de Libération du Congo, dont le secrétaire général adjoint Fidel Babala s'est montré très optimiste. Alors que les victimes centrafricaines de ces éléments attendent plutôt la confirmation de ces charges, Jean-Pierre Bemba Gombo a également reçu le soutien de plusieurs leaders de l'opposition congolaise, notamment Adolphe Mouzito, candidat annoncé à la prochaine présidentielle qu'il a rencontré cette semaine à la Cour pénale internationale. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Les dirigeants des plus grandes démocraties industrialisées se rencontrent aujourd'hui et demain au Québec, au Canada, alors que le commerce et d'autres questions sont source de tensions entre Washington et ses alliés. Le sommet du G7 risque d'être éclipsé par une autre réunion historique la semaine prochaine à Singapour. Cependant, le sommet du G7 ne sera probablement pas moins important pour l'avenir de l'économie mondiale ou le leadership international des États-Unis. Un avant-goût du sommet avec Gaby Dorsil.
Oubliez les formes et les sourires. Un gouffre grandissant se précise alors que les ministres des Finances des principaux pays industrialisés se préparent au sommet du G7 au Canada.
Je pense que vous devriez vous attendre à un sommet très animé selon les normes du G7, cela ne fait aucun doute.
Selon Jacob Kierkegaard, chercheur au Peterson Institute for International Economics, la décision de l'administration Trump d'imposer des droits de douane sur les importations d'aluminium et d'acier venant de ses plus proches alliés conduira à un isolement accru des États-Unis et à la menace réelle d'une guerre commerciale.
Avec le signal clair et l'intention déclarée de l'administration de faire probablement la même chose dans l'industrie automobile et des pièces automobiles, c'est une recette, pas pour une guerre commerciale mondiale, mais une guerre commerciale entre les États-Unis et tout le monde.
Mercredi, le directeur du Conseil économique national, Larry Kudlow, a défendu les actions de l'administration et a qualifié le désaccord de querelle familiale.
Le président Trump est très clair en ce qui concerne ses efforts pour la réforme commerciale, indiquant que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger les États-Unis, nos entreprises et notre main-d'œuvre.
Mais certains économistes disent que le résultat de la politique « l'Amérique d'abord » sera une Amérique seule. Certains s'attendent à ce que le Canada, hôte du sommet de cette année, lance la première salve. Bill Morneau est le ministre canadien des Finances.
Je veux dire, cela va causer des pertes d'emplois pour les Américains, des pertes d'emplois pour les Canadiens, et nous allons réagir comme il se doit pour faire valoir notre point de vue.
Les Canadiens et les Européens ont menacé de riposter avec leurs propres tarifs sur les produits américains. Mais cette querelle familiale pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'influence des États-Unis sur la scène mondiale, ce qui, selon les analystes, serait bénéfique pour la Chine.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la constipation.
Il s'agit d'un trouble digestif qui se manifeste par des difficultés à évacuer des selles. La victime a aussi souvent la sensation d'une évacuation incomplète dans l'intestin.
Pour en parler, nous recevrons le professeur Christian Deton, gastro-entérologue à l'hôpital général de Douala au Cameroun. Il nous dira tout ce qu'il faut savoir sur les causes, les complications et les méthodes pratiques pour y faire face.
Nous écouterons aussi les conseils de Marthe Élise Tanque, nutritionniste et diététicienne au Cameroun, et nous dira quand, comment et ce qu'il faut manger pour réduire les risques ou éviter la constipation.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console d'Earl Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.